Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le réveil va encore sonner cette semaine, mais c'est la dernière semaine de la saison d'Un autre jour est possible. De la saison, j'ai bien dit. Bonjour donc. Un autre jour est possible, lundi 27 juin 2016, avec au programme toute cette semaine. En première partie, nous allons faire le bilan de l'année culturelle. On parlera de bande dessinée vendredi en compagnie de Stéphane Beaujean et de Benjamin Rour. On fera le bilan des expositions avec Laurent Nunez jeudi. Le bilan cinéma avec Thierry Lounas mercredi. Demain, ça sera le bilan théâtre avec la grande critique de théâtre, j'ai nommé Armelle Hélio. Et aujourd'hui, c'est Oriane Jeancourt du magazine Transfuge qui sera ma première invitée pour faire le bilan littérature de cette année. Et puis en deuxième partie, on parlera de musique, de jardin, avec le pianiste Patrick Scheider. On parlera aussi donc des jardins et des hommes, le livre, mais aussi le spectacle qui fait le tour de la France. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Toute cette semaine, dans notre jour est possible, les bilans de l'année culturelle, une année marquée par une grande disparition, celle de David Bowie, bien sûr. On écoute Lazarus, extrait de son dernier album, Black Star. I was living like a king. Bonjour Auriane Joncourt.
Bonjour Toufik, ça va bien?
Bah très bien, puisque c'est la dernière semaine.
Bah oui.
Et c'est avec vous qu'on va commencer les bilans de l'année.
Ah, j'adore l'heure des bilans.
C'est l'heure des bilans. Littérature avec vous, Auriane Joncourt. Alors, que faut-il retenir de cette année littéraire? Quel roman?
Écoutez, j'ai trouvé en tout cas que c'était une très belle année littéraire. D'abord, on a eu on peut remonter à il y a un an, une très belle rentrée de septembre 2015. Nous, on a beaucoup aimé le Simon Liberati, ce grand chant d'amour pour Eva, la femme qui partageait sa vie. Mais il n'était pas le seul, parce que c'était un Goncourt qui était assez formidable. Goncourt et Mathias Sénard, même si ça fait des années qu'on pouvait l'attendre.
Pour Boussole, ouais.
Boussole, c'était quand même un de ses grandes œuvres. On peut être d'accord là-dessus. Et puis en janvier, très belle rentrée aussi, que ce soit Édouard Louis qui nous a surpris avec ce deuxième roman radicalement différent du premier. Ces différentes voix qui se heurtaient, qui se répondaient, cette histoire douloureuse du viol qu'il a subi. Enfin, c'était un nouvel Édouard Louis, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Moi, je préfère le premier, mais on ne va pas revenir sur cette
polémique. On pourrait
entre Transfuge et France Culture, ouais.
Il y a eu aussi Charles Robinson, qui pour nous a été une belle découverte. Et là, vous êtes d'accord avec moi, je crois, tout
complètement.
Voilà, sur les cités.
Ouais, bien sûr.
La vie dans les cités, la langue des cités, l'énergie des cités et la violence aussi, mais pas seulement. C'est
et
ça qui est intéressant.
Pas seulement, et puis une nouvelle écriture, ça on peut dire, un auteur à suivre.
Ah là, je suis d'accord avec vous.
D'autant plus qu'il est jeune.
Il est jeune, mais tout ça sont des jeunes. Et puis en étranger aussi, on a été plutôt bien servi, je trouve. Alors nous, moi j'ai un petit coup de cœur pour Joseph O'Connor qui a fait un roman rock ici et maintenant sur les grandes années rock des années 80, territoire assez peu exploité et qu'il a très très bien fait en littérature. Mais il y en a eu d'autres. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, moi, j'ai lu là un roman qui est paru il y a quelques mois d'un tout jeune homme qui a 25 ans, qui s'appelle Mohamed Mbougarsar, qui est sénégalais. Son livre s'appelle Terre Sainte, mais Sainte, C-E-I-N-T-E. Et il imagine un pays africain, qu'on peut aussi supposer assez proche du Mali, mais un pays africain dominé par des islamistes et quelques esprits rebelles et qui essayent de résister en montant un journal contre la loi islamiste qui règne. C'est extrêmement courageux, extrêmement fin. Et vous voyez, c'est un roman à la Côte Zé. Très bien construit, très puissant. Donc vous voyez, toute l'année, je trouve qu'il y a des écrivains comme ça qui nous ont surpris venant un peu partout.
Tout ça, Auriane Joncourt nous rappelle que les auteurs sont plus que jamais ancrés dans le réel. C'est quoi? C'est la peur d'un monde qui est en train de changer, des populismes qui se redressent, d'un avenir qui se fait de plus en plus incertain. Bref, ils n'ont pas attendu l'année prochaine, c'est-à-dire l'année avec une élection présidentielle, pour parler des enjeux politiques.
Oui. Oui, c'est vrai qu'on voit...
Oui, y compris le roman de Charles Dantzig, très bon du reste.
Ouais. Oui, tout à fait, qui était en effet sur le mariage gay et les manifestations contre le mariage gay à Paris. C'est vrai qu'il y a une tension, il y a une volonté d'écrire sur le contemporain, il y a une tension politique qui est très forte et qui se ressent pas forcément immédiatement, mais dans beaucoup de livres, dans beaucoup d'essais aussi. Je pense à l'essai d'Adonis en novembre, Islam et politique qui était extrêmement intéressant, Islam et violence même, voilà, qui allait au cœur des questions qui l'intéressent depuis longtemps. Mais je pense aussi à Geoffroy de la Gannerie, qu'on a mis en couverture en février, et qui est cet essayiste qui se réclame de Foucault, extrêmement brillant, tout jeune homme qui n'a pas 40 ans, et qui a fait ce livre sur la justice, en nous demandant comment repenser toute la justice française, la justice mondiale, en se demandant finalement voilà comment se placer. C'était très ambitieux, et c'était une manière d'être politique aussi, sans être directement politique. Je pense que l'année prochaine, faut-il s'en réjouir, je ne sais pas, mais en tout cas, les écrivains se feront plus frontalement politiques, un peu à la manière d'un Houellebecq. Voilà.
Ouais. Alors justement, Auriane Joncourt, est-ce que vous avez commencé déjà à lire ces livres? Moi, c'est pile des romans de la rentrée me fait peur, cette pile, mais en même temps, il y a de belles promesses. Pour l'instant, j'ai pas ouvert un seul livre. Vous, je suppose que vous avez déjà commencé. Vous êtes toujours en avance, Auriane Joncourt.
Bah oui, on est en avance. Alors, parce que c'est vrai que notre numéro sort le 14 août. Alors bon, on travaille. Écoutez, c'est une rentrée riche. C'est une rentrée pleine de promesses. Là, je suis d'accord avec vous. coup, c'est une rentrée très ouverte, comme on dirait à l'hippodrome de Longchamp.
C'est-à-dire que d'une manière diplomatique, si je décrypte bien, il n'y a pas de grosses locomotives, il n'y a pas les grands romans attendus.
Non, il n'y a pas. C'est vrai que, vous voyez, pour nous, il y a plusieurs romans qui nous enthousiasment, qui nous surprennent. Il n'y a pas pour le moment, dans la rédaction de Transfuge, d'évidence. Mmh. Mais ça viendra. Il y a de très grands noms. Bon, évidemment, il y a Salman Rushdie qui sort son livre, donc on va en parler, parce que ce soit sur la forme ou sur le fond, il prend des risques, des risques littéraires, et voilà, il a une vraie ambition. Après, en littérature, oui, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de premiers romans, beaucoup de deuxièmes romans, ce qui est une chose enthousiasmante. Voilà, alors évidemment, à travers cette jeunesse, il faut essayer de trouver une voie. Mais par exemple, mettant les premiers romans de côté, je peux déjà vous le dire, un vrai enthousiasme pour le livre de Léonore Amiano.
C'est chez Grasset toujours.
Voilà, chez Grasset, et qui en fait se passe en Afrique et donne voix à trois femmes qui sont liées différemment à un même homme. Trois femmes, et comme toujours, elle a cette écriture lyrique mais tenue que j'aime beaucoup.
Et le titre ?
Alors, le titre, c'est « Crépuscule du tourment ». Alors, vous voyez, ça en dit long, c'est un livre sur les passions. Les passions de trois femmes pour un homme qu'on ne verra jamais, mais qui se profile, et à travers ça, on voit toute une histoire africaine et toute une histoire des femmes en Afrique. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant. Elle a cette cruauté aussi que j'aime beaucoup, Léonore Amiano, c'est-à-dire elle a cette cruauté des personnages entre eux et des personnages envers eux-mêmes. Et tout ça se voit dans cette écriture qui est assez saisissante.
À venir, et pour parler de littérature étrangère et la rentrée, donc, la rentrée de septembre, c'est à partir du 14 août, ça, chers auditeurs, vous avez fini par le savoir.
Oui, ouais. Oui. Bah, étranger, alors, moi, j'ai déjà un livre qui m'enthousiasme beaucoup, c'est celui de Muñoz Molina. Un Espagnol qui a toujours beaucoup d'ambition et va suivre, alors c'est un roman à moitié historique puisqu'il suit le tueur du pasteur Martin Luther King, d'un côté, et de l'autre, il raconte ses débuts dans l'écriture en Espagne et puis à Lisbonne quand il avait 30 ans. Donc, vous voyez, c'est quelque chose à la fois d'intime et d'historique. Et c'est extrêmement difficile à faire, ça, d'être intime et historique. Et lui, il y arrive incroyablement bien.
Auriane Jeancourt, qui dirige les pages livres du mensuel Transfuge. Mensuel Transfuge, d'ailleurs, qui fête ses 100 ans. Son centième
c'est
numéro.
C'est 100 ans bientôt.
Son centenaire, allez.
Le numéro 100.
Ouais. Et enfin, en kiosque. Ouais. Alors, un mot sur ce numéro?
Oui, alors c'est un numéro qu'on a pris beaucoup de temps à faire parce que c'est le numéro 100 et on a choisi pour ça les 100 personnes qui comptent pour Transfuge. C'est la couverture, c'est-à-dire cinéaste, écrivain, distributeur, producteur, journaliste, éditeur, enfin tous ceux qui, selon nous, défendent, produisent la culture qu'on aime et qu'on a envie de défendre nous-mêmes dans les années à venir.
Bel été à vous, Auriane. Merci d'être passée ce matin. Demain, on parlera de théâtre. Le bilan théâtre, et après mercredi, bilan cinéma, jeudi, les expos, les photos, et vendredi, la bande dessinée.
Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Patrick Scheider, bonjour.
Bonjour Toufik.
C'est vous qu'on entend jouer du piano, du Franz Liszt.
C'est ça, voilà, c'est sur un piano de 1846, donc à peu près le même piano que Liszt avait entre les doigts.
Tout ce son voilé un peu.
Ouais, ce son qui semble venir du lointain, voilà, qui à mon avis est une part inhérente du romantisme. C'est jamais une évidence, ça va toujours être quelque chose d'un peu voilé qui porte au rêve.
Et pourtant, ça a été enregistré dans un studio, là, non?
Oui, oui, tout à fait. Ah, oui.
Je vous dis ça parce que vous êtes, par ailleurs, l'initiateur du festival Musique au Jardin. Il y a même un ouvrage collectif qui a été publié chez Bayard, sous votre direction, hein, pour fêter la rencontre de l'art et de la nature, et plus précisément, en ce qui vous concerne, de la musique et des jardins. Est-ce qu'on peut jouer, justement, du Liszt dehors? Ou est-ce qu'il faut, pour un pianiste, qu'il y ait une écoute total pour la musique, donc une acoustique qui ne s'embarrasserait pas des bruits de la nature, justement.
Ah, je crois que c'est bien, les bruits de la nature, comme vous dites, c'est utile, parce que souvent ils ont été à la racine même de la composition. On sait très bien que tous les compositeurs sont inspirés par la nature. Je pense que c'est même la source de l'invention des instruments. Inventer les bruits naturels pour se les approprier, se les rendre favorables, ensuite les organiser avec notre sensibilité humaine. Donc je crois que c'est avant tout un retour à une sorte d'équilibre, on pourrait dire aux sources. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, va de soi. Et vive les bruits, parce qu'ils nous inspirent, ils nous excitent à faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Ils dérangent dans le sens, mon sens, oui, positif du terme. Voilà, c'est comme une décharge électrique. Alors oui, parfois on joue très tranquillement, puis tout d'un coup, oui, ça peut être un oiseau qui chante, ou ça peut être aussi, si on joue en pleine ville, une mobilette qui passe au loin.
Ou un orage qui menace.
Oui, voilà, et ça fait partie de la vie. Mmh. On sait très bien que Chopin, il s'est inspiré des bruits, par exemple, de charges de chevaux pour écrire sa poésie héroïque, donc quelque chose de très très concret. On fantasme souvent en disant « Oh, qu'est-ce que Paris devait être tranquille dans les années 1840 ?» Mais quand on imagine les pavés, le bruit des chevaux, des pas, etc. sur les pavés, ça fait très bruyant. Et ça, ça faisait partie de la vie, et donc de l'inspiration.
Mmh. Mais si vous avez décidé de lancer cette combinaison entre l'art et la culture, des jardins et des hommes, les musiques au jardin, pour reprendre le titre de l'ouvrage, ce n'est pas tant pour un problème d'acoustique, c'est beaucoup plus parce que vous voulez que votre intérêt pour la nature et pour les jardins soit au moins aussi fort que votre passion pour la musique.
Oui, c'est juste. Et pour les jardiniers, je dirais encore plus spécifiquement. Parce que j'ai créé ce spectacle il y a maintenant 11 ans, et au départ, je savais pas ce que je faisais. J'avais la volonté, plus que la volonté, une sorte d'impossibilité de faire autrement que de faire ça.
Alors comment c'est arrivé? Je sais que vous êtes parisien, Patrick Scheider, que vous avez quitté Paris pour aller vous installer dans un patelin où la nature est plus présente, disons.
C'est ça.
Vous êtes où?
Moi j'habite en Touraine, près de Loches. Voilà, c'est un endroit que j'adore parce qu'il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'histoire et je suis féru d'histoire. Mais vraiment, cette idée m'est venue après avoir visité le Clos Lucé à Amboise, là où est mort Léonard de Vinci, où il a passé les trois dernières années de sa vie, et Chenonceau. Et en sortant de Chenonceau, je dis à Monique, mon épouse de l'époque, eh bien, il faut qu'on fasse un spectacle associé à des jardins, musique et littérature. Mais je savais pas ce que je disais, ça m'est sorti comme ça. Voilà. Après, je l'ai fait. Je suis allé d'abord voir Monsieur Carvalho, qui est le propriétaire du château de Villandry, avec un superbe potager. Je lui ai proposé l'idée, et tout de suite, il me dit oui. Mais il me dit aussi, mais je suis sûr que votre idée, ça intéresserait aussi Amboise, Chambord. Bah, je dis, pourquoi pas? Et tout le monde me dit oui. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose de spécial.
Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux, hein.
Oui, c'est ça, il y a une quarantaine de villes. Et là, j'ai découvert vraiment...
Autour de vous, et de votre piano, entre Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault, il y a l'écrivain Frédéric Lenoir, Samuel Quenoy, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont accepté de faire cette tournée avec vous, hein, des jardins et des hommes.
Oui, parce que je pense... moi, je pars du principe que la femme, l'homme sont nature. Il n'y a pas la nature et puis l'homme, il y a une unité des choses. Et je crois que ça, c'est de plus en plus compréhensible. Il y a 10 ans, c'était un peu d'avant-garde. Maintenant, c'est quelque chose qui est dans les esprits, dans les consciences. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir comment on fait passer ce message. Et je suis pas écologue, je vais pas mettre non plus une banderole à l'entrée du spectacle, faites attention à la nature. J'espère que l'art permet de faire passer ce message avec douceur, avec quelque chose de très très positif et de beau, qui permet qu'on en oublie le côté technique, qui est certes indispensable, et qu'on sente aussi ça en soi. Il faut pas seulement le comprendre, il faut le sentir.
Alors comment se présente ce spectacle? Parce que les jardiniers sont présents, il y a aussi des poètes, il y a des danseurs, il y a des écrivains, il y a des comédiens. Et puis il y a vous qui jouez aussi bien Schubert, Chopin, Bach, quelques improvisations. Mais comment ça se présente?
Eh ben en fait, je veux bien qu'on commence par les jardiniers. Parce que j'ai développé un concept depuis 6 ans dans lequel j'invite des jardiniers des services espaces verts des villes, c'est avec eux que je travaille, à participer au spectacle. Alors par exemple, ils vont enfoncer des pieux régulièrement, rythmiquement. Et moi, je vais improviser un morceau à partir de ce rythme donné par les outils. Ça peut être aussi ratisser des matériaux un peu sonores comme du gravier, etc., qu'on amplifie. On crée des ambiances sonores, des vraies improvisations dans lesquelles on associe les sons du piano et les sons des outils du jardin.
Mais des impros travaillées ou c'est des impros allées?
Alors, on répète, on répète 3 fois pour se connaître, voilà, en amont.
Ouais.
Pour qu'il n'ait pas peur, parce que quand même c'est bizarre, un genre de martien qui propose d'associer un piano à un râteau. Et puis ensuite, le jour du spectacle, généralement on fait une chose totalement différente de ce qu'on avait prévu. Et ils sont prévenus, et c'est ce qu'ils aiment. Mais ça interroge pas beaucoup les jardiniers, parce qu'ils sont habitués à improviser en permanence. Tout à l'heure dans les couloirs on disait, qu'en pensent les jardiniers de ce temps-là? Ben voilà, il fait jamais le temps qu'il faut pour un jardinier, donc il s'adapte en permanence.
Cette année plus que jamais, hein, ouais.
Oui, certes. Et donc il improvise en permanence avec le temps, avec la vie. C'est ce qu'on fait tous. Quand on parle, on n'a pas non plus prévu ce qu'on allait dire d'une seconde à l'autre. Pourtant, ça n'empêche pas de communiquer ou de traverser la rue ou de faire tous les actes de la vie courante. On improvise en permanence, mais on se rend pas compte.
Mais alors, le public, il est invité à voir les jardiniers, à écouter la musique, les comédiens.
Voilà, ça. Il y a des textes. Donc, alors, on a une stratégie interne au spectacle qui est d'associer des textes récents, voilà, qui peut être de Pierre Rabhi ou de Jean-Marie Pelt, admettons, avec des textes plus anciens de Georges Sand, de Rousseau. Bien sûr, Jean-Jacques Rousseau, de Léonard de Vinci.
Bah ouais, c'est assez ouvert parce qu'il y a même des contes arabes, des poètes arabes traduits.
Ah oui, tout à fait. Mais le prochain thème de mon spectacle l'année prochaine, c'est un rapprochement entre jardin d'Orient et d'Occident. Parce que je pense que c'est très bien de parler de la biodiversité végétale, de la louer, de la défendre. Et je crois que c'est très bien aussi de défendre la biodiversité humaine des cultures. Et de la défendre.
Patrick Scheider, est-ce que vous choisissez les musiques en fonction de... des jardiniers?
Absolument pas.
Bah oui, je me disais bien que c'est quoi la...
Non. En fait, j'ai toujours beaucoup de partitions, j'emmène avec moi, et je prévois quasiment jamais à l'avance ce que je vais jouer. Donc je pioche dedans, selon ce que je vais sentir du lieu, du public, des jardiniers effectivement, mais ça se modifie en permanence. C'est ce qu'on aime, nous aussi, improviser avec la nature.
Et si vous voulez parler de votre propre rapport, vous, pianiste, au jardin, à la nature, est-ce que vous êtes aussi jardinier?
Oui, alors je jardine, effectivement. Bon, pas aussi régulièrement qu'il le faudrait, parce que je suis nomade, je suis absent 5 jours de semaine. Et je suis sur les routes, voilà, qui sont peu jardinées. Et quand je suis chez moi, ouais, c'est une vraie passion. J'adore ça, parce que c'est la vie, c'est le vivant, et c'est très concret.
Qui vous a donné cette passion?
Eh ben, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais simplement que je suis issu d'une famille du côté de mon père qui était, qui sont d'ailleurs toujours viticulteurs en Alsace. Il y a le vin chez Der, ça existe. Mais personnellement, j'ai pas été formé à ça du tout, du tout. J'étais à Paris, je souffrais absolument pas de la ville. C'est-à-dire, j'ai aucune dichotomie pour moi entre vie et campagne. J'étais content en ville, je suis content en campagne. J'allais souvent dans les bois le week-end, les forêts franciliennes, voilà, Marly, etc., parc de Saint-Cloud. Et pour moi, c'est harmonieux, mais je ne sais pas d'où ça vient.
Votre amour de la musique ne vous a pas poussé justement à choisir des endroits plus calmes pour pouvoir écouter, apprécier, composer?
Alors pour composer, il faut avant tout que l'endroit m'inspire. Et le fait qu'il soit calme ou non n'est pas très très important. Par exemple, j'ai habité pendant 5 ans une maison qui ne m'inspirait pas beaucoup. Je n'ai pas composé grand-chose. Après, j'en ai trouvé une autre qui m'inspirait. C'est lié au site, mais aussi bien à la pierre. Voilà, ça c'est quelque chose qui est mystérieux. Mais je crois que le jardinier aussi a une inspiration. C'est-à-dire, dans le travail de la terre, c'est ça qui est très important, et là on se retrouve entre pianiste et jardinier, c'est qu'on a un travail technique aussi dans le piano, ça veut dire faire les gammes pour faire vite, et le jardinier travaille sa terre. Et après, il nous faut cette mélange très particulier de pragmatisme finalement, de technicité, et de rêve, aussi bien chez le jardinier que le pianiste, qui rassemblent les contraires. Et dans notre culture, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que quelqu'un qui fait un métier technique ou manuel, c'est pas un artiste. Et moi, je m'inscris en faux contre ça. Dans tout artiste, il y a un manuel et un artisan, et vice-versa pour moi.
Alors, pour avoir les dates du spectacle des Jardins et des Hommes en quelques clics, vous aurez les prochaines dates en passant par la page d'Un autre jour est possible sur franceculture.fr. Le livre, l'ouvrage est publié chez Bayard. Patrick Scheider, avec de quoi vous discutez avec les jardiniers? Plutôt de jardinage, plutôt de musique, plutôt d'autres choses?
Alors, en fait, on discute de la vie, on parle de philosophie. Beaucoup. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui sont fermés sur leur métier. Au contraire, leur métier les ouvre à toute forme de vie. Et c'est ce que j'aime chez eux. Ouais. C'est ce qui m'a captivé in fine dans leur métier, c'est que c'est un métier qui porte une certaine philosophie. Et même si on n'est pas jardinier soi-même, on peut le comprendre et ça peut être adaptable à plein d'autres métiers. Quelque chose qui est entre pragmatisme et puis rêve, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis, je crois très important, le contact positif avec la mort aussi. Le jardinier voit des plantes mourir, d'autres naître, etc. Et ils le prennent pas mal, ça fait partie de la vie. Et je trouve peu de métiers, et je regrette que chez les pénis ce soit pas le cas, où on associe harmonieusement finalement tous les aspects du vivant. Et puis enfin, tout de même, je crois qu'il faut le dire, le jardin, l'art du jardin, c'est le seul art qui travaille, qui fasse de l'art avec du vivant. Les notes de Chopin, elles sont mortes, même mes propres compositions, une fois que je les ai écrites, adviennent que pourra. Alors que la plante, elle est là, elle vit avec la volonté du jardinier. Elle le contredit, il y a un rapport. Voilà, ce rapprochement, pour moi, c'est essentiel.
Et enfin, pour terminer, quand le temps est détraqué, quand il y a plus d'eau que prévu, en été, qu'est-ce que vous faites? Ou plus chaud, Patrick Scheider?
Oui, alors, souvent, il y a une solution de repli, une serre, par exemple. Voilà. Ça peut être aussi une église. Mais finalement, sur 40 spectacles, en général, il y en a deux pendant lesquels effectivement il va pleuvoir, ça pousse aussi. Le reste du temps, il suffit qu'il fasse beau pendant une heure et demie, et le tour est joué.
Merci d'être passé ce matin, Patrick Scheider. Ça vous prend beaucoup de temps, le spectacle des Jardins et des Hommes, ou?
Ouais, ça me prend beaucoup de temps, et puis maintenant que j'écris, que je vais écrire de plus en plus, et que c'est en corrélation avec le spectacle, j'ai l'impression de jamais en sortir.
Voilà, vous avez réussi à réunir vos deux passions.
Ouais, je suis heureux.
Merci.
Merci.
Et merci. Et c'est contagieux. Merci d'être passé ce matin. Il y a de la bonne humeur sur France Culture. On se retrouve demain. Demain pour les bilans de l'année. On parlera de théâtre en première partie avec Armel Elio. Et en deuxième partie, on voyagera très loin, en Alaska, dans l'Himalaya, en compagnie de Linda Bortoletto. Bonne matinée sur France Culture.